927, maintain 4000, runway 8 kilo, position unknown.
Il volait à 70 000 pieds lorsque son avion a été touché. Il prenait des photographies.
Gary Powers. Ce pilote américain, agent de la CIA, a été le protagoniste d'une des affaires d'espionnage les plus explosives de la guerre froide. Si grave qu'elle allait créer une crise diplomatique entre les États-Unis et l'Union soviétique, au moment où les deux puissances, en pleine course à l'armement nucléaire, entamaient des négociations de détente. Le 1er mai 1960, un avion espion U-2, piloté par Gary Powers, est envoyé en mission secrète au-dessus de l'Union soviétique. L'U-2 est un avion de reconnaissance ultra-moderne, capable de voler à très haute altitude, hors d'atteinte des radars. L'objectif de la mission ? Réaliser des photos des installations militaires soviétiques les plus sensibles grâce à un appareil haute résolution installé dans le ventre de l'avion. Mais contre toute attente, l'U-2, qu'on croyait invincible, est abattu par les Russes et le pilote américain, sorti miraculeusement vivant de l'attaque, est capturé. L'image a fait le tour du monde. Gary Powers, dans sa combinaison d'aviateur, les bras ballants, le regard penaud d'un enfant prit la main dans le pot de confiture. Maintenu à l'isolement, Gary Powers a été copieusement interrogé par le KGB, avant d'être jugé dans un procès à grand spectacle pour la plus grande humiliation des États-Unis. Reconnu coupable d'espionnage, le pilote américain, qui jusqu'à la dernière minute s'attendait à la peine de mort, a été condamné à 10 ans de réclusion. Mais en 1962, Powers sera finalement relâché lors d'un échange d'espions sur le pont de Glienicke à Berlin. Un épisode devenu iconique de l'espionnage de la guerre froide qui sera immortalisé au cinéma par le pont des espions de Steven Spielberg. Mais entre-temps, l'affaire de l'U-2 a gravement mis en danger la détente au point que Nikita Khrushchev, le numéro 1 soviétique, a claqué la porte d'un sommet organisé à Paris. Et aux yeux des Américains, l'affaire a écorné l'image de leur pays que naïvement ils croyaient incapable de mentir et d'espionner. Par ailleurs, Gary Powers a fait l'objet de suspicions dans son pays et même d'une intense campagne de dénigrement. Était-il vraiment un héros américain victime de la barbarie communiste ou simplement un lâche qui s'est bêtement laissé capturer sans résister, sans avoir même eu le courage de se suicider avec le poison que la CIA lui avait confié? Et au sein même de la CIA, au plus haut niveau, on s'est posé cette question. Gary Powers ne serait-il pas en réalité un traître, un agent double qui aurait manœuvré pour livrer l'U-2 aux Soviétiques? Né en 1929 dans le Kentucky, Gary Powers aurait pu, comme son père, devenir mineur. Par chance, son père rêve pour lui d'une vie moins dure. Il sera médecin. Mais à 21 ans, l'étudiant en médecine choisit de s'engager dans l'aviation, United States Air Force.
Dès mon premier vol, dès mon premier atterrissage seul, j'ai compris que le pilotage serait la grande affaire de ma vie.
En 1955, Gary Powers, qui vient de terminer sa formation de pilote, signe un nouvel engagement dans l'armée. Sa voie, sa vie, semble toute tracée, d'autant qu'il vient de se marier. Mais en 1956, la vie de Gary Powers, 27 ans, va basculer. Un matin, il est convoqué par l'état-major.
J'ai une proposition à vous transmettre.
Pourquoi moi ?
Parce que vous remplissez les conditions requises. Vous êtes un pilote au-dessus de la moyenne. Et vous avez plus du nombre d'heures de vol nécessaire.
De quel genre de mission s'agit-il ?
Je ne peux rien vous dire pour l'instant.
Le commandant fixe alors un rendez-vous à Gary. Un rendez-vous très bizarre, à 7h du soir, dans un motel miteux au bord d'une autoroute. Powers se présente à l'heure dite au bungalow numéro 1. Un homme en civil lui ouvre.
Je m'appelle Gary Powers. On m'a dit de demander un certain Bill Collins.
C'est moi, entrez.
Bill Collins, un nom d'emprunt, explique à Powers qu'il a été choisi pour une mission spéciale. Un travail dangereux mais d'intérêt national, bien payé, qui l'obligera à vivre à l'étranger pendant 18 mois. Un jour, enfin, Collins lâche le morceau.
Je représente la CIA. Si vous signez, vous aurez à piloter un nouveau type d'appareil. Un avion qui vole plus haut que tous les autres.
On imagine l'étonnement et la curiosité de Gary Powers.
Votre mission, maintenant je peux vous le dire, consistera à survoler et à photographier l'Union soviétique. En cas de guerre, on ignore ce que nous allons trouver en face de nous.
Patriote et anticommuniste convaincu, Gary Powers est fier d'avoir été choisi. Et en accord avec sa femme, la perspective d'une bonne paye l'incite à accepter. Le 13 mai 1956, Powers, qui a pris un congé de l'US Air Force, signe son contrat avec la CIA et part, avec d'autres pilotes, commencer son entraînement sur une base secrète en plein désert du Nevada. C'est là qu'il découvre enfin le mystérieux U-2.
À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U-2 avion espion ou avion de reconnaissance, vous l'appellerez l'Arctique. Les ailes de l'Arctique ont une envergure de 24 mètres. Propulsion par réacteur Pratt & Whitney J57P37, un seul réacteur. Une poussée de 4500 kg et une vitesse maximale de 690 km/h. Ce n'est peut-être pas rapide, mais à une altitude de croisière de 70 000 pieds, rien ne s'approchera de vous.
70 000 ?
Oui, l'idée, c'est que l'ennemi ne sache même pas que vous êtes là.
La création, un an plus tôt, de l'U-2 répondait à une demande urgente du président des États-Unis, Dwight Eisenhower, très inquiet de l'avancée technologique de l'URSS.
Le président Eisenhower a prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies un discours dont le retentissement international a été énorme. La proposition du président Eisenhower porte non seulement sur la limitation des armements atomiques, mais surtout sur la collaboration avec toutes les nations, et notamment l'URSS, pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Eisenhower redoute par-dessus tout une attaque surprise sur les États-Unis, comme à Pearl Harbor en 1941, mais cette fois nucléaire. D'autant que les Américains manquent cruellement de renseignements sur les installations militaires soviétiques. Et les cartes géographiques qu'ils possèdent de cet immense territoire sont totalement dépassées. Priée de réagir vite, la CIA, dirigée alors par Alan Dulles, fait appel à des industriels. Et en 1954, il a proposé à Eisenhower la construction d'un avion espion de type nouveau. Le président a donné immédiatement son feu vert. Un contrat secret était signé avec l'avionneur Lockheed, qui, en un temps record, a fait construire l'appareil dans un hangar discret en Californie. 7 mois plus tard, l'U-2 faisait son premier vol d'essai. L'U-2 est une sorte de planeur ultra-léger muni d'un turboréacteur. Grâce à ses ailes très longues, il peut atteindre des altitudes voisines de 22 km et prendre des photos grâce à un appareil dernier cri.
Ça, c'est un 4500 mm en 3 exemplaires. Un appareil panoramique très précis, 4 fois plus puissant que tous les appareils de reconnaissance aérienne qu'on a utilisés. Vous ferez des photographies. Vous en ferez beaucoup. À 70 000 pieds, l'Arctique peut photographier un territoire de 5000 km² en un seul passage.
Eisenhower est très impressionné en voyant les premières photos prises d'un U-2. Des images de la ville californienne de San Diego si précises qu'on peut distinguer les voitures dans les rues et les marquages sur le sol des parkings. Surtout, le président en prend conscience. Désormais, les Américains peuvent surveiller toute la surface du globe, même au-delà du rideau de fer, sans être interceptés, en principe. Revenons à Gary Powers. En 1956, dans le désert du Nevada, le pilote espion a entamé sa formation à l'U-2. il s'est vite pris au jeu.
Vous êtes à plus de 70 000 pieds, soit plus de 20 km au-dessus de la Terre. Personne à qui parler, sauf à vous-même, serré dans une combinaison. Impossible de boire ou de manger, ni rien d'autre. Ça fait partie de l'entraînement. Au bout d'un moment, on n'y pense plus. La seule chose qui compte, c'est votre propre respiration.
Les contraintes de l'U2, en effet, sont nombreuses. Pour des vols de longue durée, le pilote doit garder son casque et sa combinaison jusqu'à 9 heures d'affilée. Et l'U2 étant un monoplace, le pilote est seul et sans assistance radio quand il survole l'URSS. Et en cas d'accident, les consignes sont strictes.
S'il devenait nécessaire d'abandonner l'avion au-dessus du territoire soviétique, il y a une charge explosive d'1 kg à l'intérieur du fuselage. D'abord, vous activez les circuits. Pour actionner le minuteur réglé sur 70 secondes, vous devez appuyer sur l'interrupteur Destruct. Il est impératif que ces vols restent secrets et que cet appareillage ne tombe pas entre les mains de l'ennemi.
Mais déclencher la destruction de l'appareil laisse au pilote juste le temps de sauter en parachute avant l'explosion. Une manœuvre délicate, donc. Des détails techniques qui auront leur importance le jour J. Dans ses mémoires qu'il publiera en 1970, en réponse aux accusations qui lui seront faites, Gary Powers évoquera un problème de taille.
Personne à la CIA ne nous avait dit ce qu'il conviendrait de faire si nous faisions un atterrissage forcé en Russie. Et quoi répondre en cas d'interrogatoire? Et nous, pilotes, nous ne posions pas la question, comme pour ne pas tenter le sort. C'était une grave erreur.
En août 1956, sa formation terminée, Gary Powers est envoyé en Turquie à Incirlik, une base aérienne de l'OTAN, à proximité de l'Union soviétique. Mais pour l'instant, les pilotes ont pour consigne stricte de ne jamais franchir la frontière. Officiellement, les U2 n'opèrent que des missions de reconnaissance météorologique. Mais en 1959, la pression monte. Les Américains sont de plus en plus persuadés que les Soviétiques possèdent un nombre de missiles balistiques intercontinentaux largement supérieur au leur. On le saura plus tard, il s'agit d'un mythe. Mais pour l'instant, les Américains en sont certains et en ont peur. Il est donc urgent d'en avoir le cœur net avant le sommet qui doit s'ouvrir le 16 mai 1960 à Paris. C'est pour cela qu'au printemps, Eisenhower donne son accord pour que des U2 effectuent des vols très loin à l'intérieur de l'URSS. Une décision dangereuse, Eisenhower en a conscience. Car si l'un des pilotes venait à être abattu ou capturé, cette intrusion pourrait être considérée par l'URSS comme un acte d'agression et donc déclencher un conflit ouvert. Le 9 avril 1960, un U2 traverse la frontière et survole 4 bases militaires soviétiques. L'avion rentre avec des clichés sans avoir été intercepté. L'opération est donc un succès. Le prochain vol est prévu le 1er mai. Cette fois, à bord de l'U2, notre pilote espion, Gary Powers. Mais ce vol est plus ambitieux que le précédent et donc plus dangereux.
Je devais décoller de la base secrète de Peshawar, au Pakistan, et me poser en Norvège. Pour la première fois, nous allions essayer de traverser l'Union soviétique de bout en bout.
Un vol de 9 heures sur environ 6000 km. L'objectif, photographier les cosmodromes de Baïkonour et de Plessetsk et leurs rampes de lancement de missiles intercontinentaux. Au petit matin, après un solide petit déjeuner, 3 œufs au bacon et des toasts, Powers ne pourra rien manger avant la Norvège, il enfile sa combinaison et au moment de se hisser dans l'U2, son chef lui propose d'emporter une pièce d'$1 en argent. Mais une pièce pas comme les autres, conçue par la CIA. Elle contient une aiguille recouverte d'une substance brune et visqueuse.
C'est du curare. Il tue en quelques instants par paralysie musculaire. Il suffit d'une égratignure.
Un poison à s'injecter au cas où l'espion est arrêté et interrogé et qu'il préfère la mort à la torture. À 6h26, 1er mai 1960, Gary Powers met les gaz et l'U2 décolle. Le vol débute sans problème dans un ciel dégagé.
Je n'avais emporté qu'un peu de nourriture. Une pièce d'identité, quelques objets personnels et un sac de survie et un pistolet avec silencieux. Et $1 en argent, avec une aiguille de curare à l'intérieur. Personne ne m'avait demandé de l'utiliser, ni n'avait pensé que j'aurais à le faire.
L'U2 survole l'Afghanistan, la chaîne de l'Hindou Kush et bientôt l'Union soviétique.
Il était presque 10h30. J'étais en pilotage automatique depuis le décollage. Je commençais à voler au-dessus de la chaîne de l'Oural.
Mais ce que le pilote ignore, c'est que depuis le 9 avril, les Russes sont sur les dents. Ce jour-là, ils ont vu l'U2 entrer dans leur espace aérien, mais ils n'ont pas pu l'intercepter. Nikita Khrushchev, le numéro 1 russe, le racontera plus tard.
Nous étions humiliés par ces vols surprises qui mettaient en évidence notre impuissance. Mais nous allions bientôt y mettre un terme.
Les Soviétiques viennent en effet de mettre au point un nouveau missile sol-air qui, ils l'espèrent, pourra enfin atteindre les avions américains. Ce matin du 1er mai 1960, à Moscou, Khrushchev est réveillé par un appel de son chef d'état-major qui lui apprend qu'un avion inconnu a pénétré l'espace aérien soviétique. Que faire ? Donner l'ordre d'abattre l'avion au risque de compromettre la détente ? Ou bien ignorer l'insulte et du coup prêter le flanc aux critiques des durs du parti? Il faut décider vite. Khrushchev donne l'ordre d'abattre l'avion. Pendant ce temps, Gary Powers, qui a parcouru déjà 2000 km dans son U2, aperçoit au sol la ville russe de Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinburg. C'est la première fois qu'un U2 survole aussi loin le territoire soviétique. Soudain, l'avion sursaute. Gary Powers ressent le coup sourd d'une explosion et aperçoit un gros éclair.
Mon Dieu! Cette fois, ça y est!
Powers perd le contrôle de l'appareil qui s'est mis à piquer à toute vitesse vers le sol. Dans l'urgence, il réussit à déverrouiller le dôme du cockpit et à s'extraire de l'U2, mais sans avoir eu le temps d'actionner le dispositif de destruction. Il est projeté à l'extérieur et, par chance, son parachute s'ouvre sans difficulté. Si le pilote est vivant, c'est parce que le missile soviétique a explosé à proximité de l'U2, mais sans le toucher. Après avoir violemment atterri dans un champ, l'Américain est accueilli par deux hommes et une foule d'écoliers, très excités par cette visite tombée du ciel. Moins innocent, Powers est conduit à la police locale où il est fouillé et interrogé. Il reconnaît rapidement qu'il est américain, difficile de le cacher. Mais pour l'instant, il affirme qu'il était en mission météorologique au-dessus de la Turquie quand il s'est perdu. Une thèse qui ne tiendra pas longtemps.
La tradition a gardé ses droits à Moscou, où devant les personnalités du Kremlin s'est développée l'ample parade militaire à laquelle nous a habitués chaque 1er mai sur la place Rouge. La revue des détachements de toutes armes, auxquels l'aviation donnait la réplique, s'est poursuivie pendant une demi-heure. L'arrivée des enfants, les bras chargés de fleurs à l'intention des dirigeants soviétiques, a ouvert la deuxième partie de ce spectacle impressionnant. Sur toute la largeur de la place Rouge, les organisations sportives, les délégués des usines et des quartiers de Moscou défileront pendant 3 heures.
Khrushchev assiste au défilé depuis le balcon du Kremlin lorsque son chef d'état-major lui murmure à l'oreille que l'avion américain a bien été abattu. Pendant ce temps, Powers, sous bonne garde, est conduit en avion à Moscou. À son arrivée, une voiture l'amène au centre-ville devant un portail de fer. Les portes s'ouvrent La voiture entre dans une cour et les portes se referment.
J'étais à l'intérieur de la Loubianka, prison et quartier général du KGB.
5 jours plus tard, Khrushchev annonce publiquement qu'un avion américain a été abattu.
Ici Serge Berg, correspondant de l'agence France-Presse, qui vous parle de Moscou. Un véritable coup de théâtre s'est produit aujourd'hui au Kremlin, à la session du Soviet suprême de l'URSS, lorsque M. Khrushchev a révélé, et ceci à 10 jours de la conférence au sommet qui doit se réunir le 16 mai prochain à Paris, ce qu'il a qualifié d'acte de provocation perpétré par 2 avions américains qui se sont introduits au-dessus du territoire soviétique, le premier le 9 avril dernier, le second le jour même de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Les députés unanimes ont applaudi longuement lorsque le chef du gouvernement de l'URSS a précisé que le 2e avion américain avait été abattu par la défense antiaérienne soviétique. Un député se levant alors criait « Abat les agresseurs, c'est un acte de banditisme, vive le gouvernement !» L'ambassadeur des États-Unis, M. Levlin Thompson, présent dans la loge diplomatique, est resté impassible. Pressé à la fin de la séance par les journalistes occidentaux, il s'est refusé à tout commentaire.
Mais pour l'instant, ce vieux renard de Khrushchev, que les Américains surnomment Monsieur K, se garde bien de préciser que l'avion est quasi intact et surtout que le pilote est vivant. La perte de l'U-2 est un coup dur pour les Américains. Mais comme ils sont persuadés que l'appareil a été détruit et que Powers est mort, Eisenhower, dans ses déclarations, s'en tient encore à la thèse officielle du vol météorologique égaré et qu'en aucun cas il ne s'agit d'espionnage. Sans le savoir, Eisenhower est tombé dans le piège tendu par Khrushchev. Car 2 jours plus tard, le 7 mai, second coup de théâtre.
À Moscou, Nikita Khrushchev a annoncé au Soviet suprême que Gary Powers, le pilote de l'avion américain qui a été abattu, est vivant. L'espion a pris des photos à plus de 2000 km à l'intérieur de l'Union soviétique. L'avion a été abattu le 1er mai, donc 2 semaines avant le sommet de Paris. Monsieur K ne manquera pas d'utiliser l'incident pour sa propagande. C'est une des affaires d'espionnage les plus extraordinaires jamais révélées.
Khrushchev fait un triomphe. Il s'agissait bien d'un avion espion, annonce-t-il, et surtout, le pilote est vivant, il est en prison et il va bientôt être jugé à Moscou. Quelle humiliation pour le président américain, pris en flagrant délit de mensonge et d'espionnage et en mauvaise posture à 1 semaine du sommet qui doit s'ouvrir à Paris. Ce n'est que le 11 mai qu'Eisenhower, enfin, s'exprime sur ce sujet brûlant.
Personne ne veut de nouveau Pearl Harbor. Cela signifie que nous devons connaître les forces et les préparatifs militaires à travers le monde, surtout celles capables d'attaques surprises massives. La culture du secret de l'Union soviétique nous y oblige. Dans la plupart des pays, aucune attaque à large échelle ne peut être préparée en secret. Mais en Union soviétique, il y a un fétichisme du secret et de la dissimulation, ce qui est une cause majeure de tensions internationales et de malaise aujourd'hui.
Un discours historique par lequel Eisenhower reconnaît publiquement et justifie l'espionnage américain au nom de la sécurité du monde libre. Le même jour, Khrushchev, de très mauvaise humeur, atterrit à l'aéroport du Bourget.
Le premier personnage de l'URSS souriait aux troupes, souriait au bouquet. Mais M. Khrushchev était mécontent. Il venait, à Moscou, de dévoiler devant les débris d'un avion l'affaire de l'U-2 américain abattu à 2000 km à l'intérieur des frontières russes. Il en avait offert la vue au public, commenté l'objet du raid et son itinéraire, exposé les preuves retrouvées, l'arsenal du pilote, de la seringue hypodermique prévue pour le suicide, au pistolet à silencieux. Et, témoignage absolu, la photo de Powers, agent double ou pilote malchanceux.
Au sommet de Paris, qui doit se tenir à l'Élysée, les dirigeants américains, soviétiques, britanniques et français, en l'occurrence de Gaulle, doivent débattre des questions importantes du moment. La situation de Berlin, les essais nucléaires et les relations Est-Ouest. Mais le sommet n'a même pas le temps de commencer. Se présentant comme le porte-parole de la paix et la victime de l'espionnage américain, Khrouchtchev claque la porte après avoir exigé des excuses d'Eisenhower.
Mais M. Khrouchtchev devait bouleverser et les horaires et les pronostics. L'affaire de l'avion espion empoisonnait la conférence. Elle devenait un duel USA-URSS. Et c'est sur ce départ lourd de suspense que s'achevaient les trois premières heures de la rencontre au sommet, dans la plus parfaite incertitude du lendemain.
Alors qu'à Paris, la tension est à son comble, pendant ce temps, à Moscou, celui par qui la crise est arrivée se morfond d'angoisse dans sa cellule du KGB. Gary Powers est persuadé qu'il va être fusillé. En réalité, il sera relativement bien traité. Le KGB entend lui soutirer des renseignements. Pendant des mois, l'espion subit d'interminables interrogatoires.
Votre gouvernement ne s'intéresse pas à vous, vous le savez. À aucun de vous. Savez-vous que 12 de vos pilotes ont des dommages cérébraux ? Ce sont des légumes à cause de l'altitude et du manque d'oxygène. Mais ils continuent de vous faire voler, Gary. Vous et vos amis. Ils vous ont donné ça. Une égratignure ? Poison. Il s'intéresse à votre sort d'après vous.
Quand Gary Powers rentrera aux États-Unis en 1962, il sera accusé par la presse d'avoir livré des renseignements stratégiques aux Soviétiques. Mais lui se défendra en affirmant au contraire avoir limité les informations qu'il donnait au KGB à celles qui pouvaient être obtenues grâce à l'épave de l'avion. Et sur la question cruciale de l'altitude que pouvait atteindre l'U-2, Powers a toujours répondu qu'elle était de 68 000 pieds alors qu'elle montait en réalité à 70 000 pieds. Le 17 août 1960, le procès de Gary Powers s'ouvre en grande pompe à Moscou. Un procès pour espionnage où toute la presse internationale est présente. Powers, qui risque la peine de mort, choisit de plaider coupable et de présenter ses excuses au peuple soviétique d'avoir violé leur espace aérien et d'avoir espionné.
La Cour suprême soviétique siège dans la grande salle des colonnes de la Maison des syndicats de Moscou pour juger Francis Gary Powers, le pilote de l'U-2 abattu en URSS, qui plaide coupable. Le général Boris Oglebski préside le tribunal. L'accusation est soutenue par le procureur général Rudenko et la défense de l'accusé est assurée par l'avocat moscovite Grinev. La famille de Powers, sa mère, son père et son épouse assistent au procès qui restera plutôt que celui de l'homme, celui de la Maison Blanche. Et le procureur n'ayant pas requis le maximum, Powers est condamné à 10 ans de privation de liberté.
Après le procès, Gary Powers quitte la Loubianka pour purger sa peine à 200 km de Moscou, à la prison Vladimir, où depuis 1917, les soviétiques enferment leurs opposants politiques. Mais Powers n'y restera que 17 mois, le temps de se lier d'amitié avec son co-détenu, un opposant letton qui lui apprend à jouer aux échecs. Le 8 février 1962, sans qu'on lui explique pourquoi, Powers est extrait de sa prison et conduit à Moscou et le lendemain à Berlin-Est. Le 10 février, par un petit matin sombre et glacial, une voiture l'emmène au pont de Glienicke, un pont métallique qui relie l'Est à l'Ouest. C'est là seulement que l'espion comprend qu'il va être l'objet d'un échange. Venant de l'Ouest, Rudolf Abel, un agent emblématique du KGB qui a espionné des années aux États-Unis. Arrêté en 1957, il a été condamné à 30 ans de prison. Venant de l'Est, notre pilote espion Gary Powers, mais aussi Frederick Pryor, un étudiant américain arrêté 6 ans plus tôt, soupçonné d'espionnage, qui, lui, passera à l'Ouest par le poste frontière de Checkpoint Charlie.
À 8h15, nous descendîmes de voiture. Même avec mon manteau épais et ma toque de fourrure russe, je frissonnais. Nous marchâmes sur le pont, désert. j'apercevais au loin un groupe d'hommes venant du côté opposé.
Conformément au plan, les deux groupes s'arrêtent à une dizaine de mètres du milieu du pont. Le temps de s'assurer de l'identité des deux espions, il faut plus d'une demi-heure pour que l'échange se fasse. Gary Powers, enfin, peut s'avancer, tandis que Rudolf Abel avance dans l'autre sens.
Nous traversâmes la ligne au même moment. Il était 8h51, le 10 février 1962. Un an, 9 mois et 10 jours après ma capture par les Russes, j'étais redevenu un homme libre.
Dans le monde entier, l'échange d'espions est salué unanimement comme un signe de détente. Mais curieusement, les Américains réservent un accueil plutôt froid à Gary Powers. Jacqueline Baudrier à la radio française.
Affaires internationales, Francis Powers, le pilote américain de l'U-2, fait route vers les États-Unis, tandis qu'Abel, le colonel des services secrets soviétiques, se trouve quelque part entre Berlin et Moscou. Francis Mercury.
Oui, Powers aura juste le temps à son arrivée d'embrasser sa famille. Il repartira ensuite vers une destination inconnue. En effet, les agents du service secret américain ont quelques questions à lui poser.
Aux États-Unis, les réactions sont très diverses. Elles vont de la satisfaction à une réserve très marquée.
Eh bien oui, le premier mouvement de satisfaction passé, l'opinion américaine se pose quelques questions. Ainsi, ce matin, le New York Herald Tribune se demande si Powers est un héros ou un homme qui a trahi son pays. Sachant que ni lui, ni aucun autre pilote des avions U-2 ne devait tomber entre les mains ennemies, pourquoi ne s'est-il pas fait sauter, lui et l'avion ? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé le poison ou le pistolet qu'il avait à bord ?
Même le président Kennedy, qui entre-temps a succédé à Eisenhower, préfère ne pas rencontrer Powers à son retour à Washington. Alors, Gary Powers est-il un héros, un lâche ou un traître ?
Qu'aurais-je dû faire ? Ne rien dire aux Russes ? Cela n'aurait servi à rien. Je ne suis pas un héros, juste un Américain moyen.
Après un débriefing intensif par les services secrets et une comparution devant une commission spéciale du Sénat, Gary Powers voit finalement son honneur lavé par la CIA et par les sénateurs qui iront jusqu'à déclarer qu'il a fait du bon travail pour son pays. Mais il devra attendre 1972 pour recevoir officiellement la médaille étoilée de la CIA. Gary Powers continue de voler pour Lockheed jusqu'en 1970, année où il devient pilote pour la radio et la télévision. C'est dans cette fonction qu'il trouve la mort accidentellement en 1977. Une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter avec le comédien François Hatt, documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisation Fabrice L'Aigle.